Ладно.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الحمد لله. Dimanche dernier s'est terminé la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni. Tout d'abord, nous nous prosternons devant Dieu et nous devons nous prosterner devant Dieu. Car de par sa grâce, tout s'est très bien passé au cours de cette Jalsa. Voilà comment doit se comporter le croyant véritable. Qu'Allah fasse que nous puissions tout le temps comprendre cela. Dès le début, dans le Saint-Coran, Allah a déclaré que le véritable croyant débute chacune de ses actions avec le nom d'Allah. Il agit ainsi afin que du début à la fin, il puisse jouir du soutien de Dieu et afin que Dieu puisse à chaque instant être dans sa mémoire. Le premier verset du Saint-Coran débute avec « Bismillah », c'est-à-dire au nom d'Allah. C'est là une annonce que je suis en train de lire ce livre de Dieu en prononçant en premier le nom de Dieu. Dieu, celui qui a envoyé ce livre à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour mon salut ici-bas et dans l'au-delà. Voilà le conseil qui a été donné aux croyants. Avant chacune de ses actions, il prend le nom d'Allah. Allah possède certes d'innombrables attributs, mais après Bismillah, dans ce verset, l'on trouve mention de deux autres attributs. Il y a l'attribut Ar-Rahman et ensuite l'attribut Ar-Rahim. Ar-Rahman est celui qui accorde d'innombrables grâces, celui qui accorde des faveurs. C'est grâce à cet attribut Ar-Rahman que Dieu accorde des faveurs et des largesses. C'est Allah qui met en place ces situations ou crée ces moyens qui dépassent les capacités de l'homme et qui ne dépendent pas des efforts de l'homme. Allah exprime son attribut Ar-Rahman en faveur de ses créatures. Il y a ensuite l'attribut Ar-Rahim qui concerne exclusivement les croyants, les Ibad Ar-Rahman, les serviteurs de Dieu. Lorsque le croyant implore l'aide de Dieu, lorsqu'il se prosterne devant lui, il prie et il implore son soutien pour que tout se passe bien. Et c'est ainsi qu'Allah lui accorde son soutien. Et nous avons vu ce soutien de Dieu au cours de cette jalsa. Nous avons vu des signes de la Rahmania de Dieu et nous avons témoigné aussi des signes de sa Rahimia. En voyant tout cela, nous ne pouvons qu'exprimer notre reconnaissance envers lui. Et de par la grâce de Dieu, nous allons tout le temps exprimer cette gratitude et étant des abdeshakour, étant des serviteurs reconnaissants, nous allons profiter à chaque instant de cette promesse faite par Dieu. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers moi, je vais vous accorder davantage. Au cours de la Jalsa, nous avons vu les grâces de Dieu. Nous avons été reconnaissants envers lui. Nous nous sommes prosternés devant lui. Et Dieu a dissipé certaines de nos appréhensions, certaines de nos craintes, de par sa grâce. Et il nous a accordé d'innombrables grâces, et la Jalsa fut un succès. Ces faveurs sont les signes de la Rahmania et de la Rahimia de Dieu. Et afin de maintenir ces faveurs, nous devons être tout le temps animés des mêmes sentiments. C'est-à-dire que nous devons tout le temps chercher les grâces et les faveurs de Dieu. Nous allons implorer son soutien. Le Messie promis à l'Islam a commenté sur ces deux attributs. Il déclare que ces deux attributs, Rahman et Rahim, sont des attributs sans lesquels on ne pourra rien accomplir matériellement ou spirituellement. Il déclare que si l'on médite sur cette question, l'on constatera que pour accomplir toute chose ici-bas sur terre, l'on aura besoin à chaque instant de ces deux attributs. La Rahmania de Dieu s'est exprimée alors que l'homme n'avait pas encore été créé. La Rahmania crée des moyens pour l'homme, des moyens qui dépassent sa force. Et il n'aurait pas pu créer ces moyens par sa ruse ou par ses subterfuges. Il déclare ensuite que la Rahimia de Dieu s'exprime lorsque l'homme profite de toute occasion que Dieu lui a accordée et lorsqu'il accomplit une action pour la cause de Dieu et qu'il use de toutes ses capacités pour atteindre cet objectif. Et c'est là que Dieu agit en sa faveur. Allah fait fructifier ses efforts et il ne les laisse pas partir à la perdition. C'est sa Rahimia qui fait fructifier ses efforts. Ainsi, il accorde la vie aux efforts moribonds de l'homme. Il y a eu des plans pour la Jalsa. Les bénévoles ont aussi travaillé pour la Jalsa. On a essayé d'apporter des améliorations. Et tout cela doit attirer l'attention du croyant dans la bonne direction. Il ne doit pas s'attribuer le fait que tout s'est très bien passé pour la Jalsa. Il doit attribuer tout ce succès à Dieu. Il doit considérer cela comme une faveur divine et doit être reconnaissant envers Dieu. Et il doit être un serviteur véritable de Dieu. Il doit être reconnaissant envers lui. Et c'est la reconnaissance envers Dieu qui va faire de nous des véritables serviteurs de Dieu. Allah déclare que si vous êtes reconnaissant envers moi, je vais vous accorder davantage. Dans d'autres versets, Allah a évoqué ce sujet de la gratitude, à savoir qu'un des signes distinctifs des croyants et qu'ils sont tout le temps reconnaissants. Mais les non-croyants ne sont pas reconnaissants. Allah déclare dans un verset à propos de l'homme que celui-ci est ingrat. Il déclare « Inna Allah la tufadun ala nasi walakin akthara nasi la yashkurun » Certainement, Dieu a accordé d'innombrables faveurs aux hommes, mais la majorité des hommes sont ingrats. En dépit de toutes ces grâces, en dépit de toutes ces faveurs, les hommes sont ingrats envers lui. C'est par la grâce d'Allah que l'homme arrive à progresser spirituellement. C'est par la grâce d'Allah qu'il arrive à progresser aussi matériellement. Lorsque le croyant va profiter de ces deux faveurs de la part de Dieu, lorsqu'il va voir cela venir de la part de Dieu, il sera davantage reconnaissant envers Dieu. Et la meilleure façon d'être reconnaissant envers lui est de l'adorer comme il doit être adoré. C'est quelque chose que tout croyant doit tout le temps avoir en tête. Il va devoir se prosterner devant lui et il va devoir tout faire pour la cause de Dieu. Et il doit attribuer tout succès à Dieu. Voilà donc comment doit agir le véritable croyant. Voilà comment agit toute personne qui débute toute action en prenant le nom de Dieu. Voilà le sens de l'attribut Ar-Rahman et Ar-Rahim. Voilà comment agit une personne qui prend le nom de Dieu avant d'agir. Lorsqu'un croyant comprend cela, à part cela, il voit qu'il n'a pas d'autre issue. Il n'a pas d'autre issue que de louer Dieu. Et Dieu a mentionné dans le Saint-Coran comment on doit être reconnaissant envers lui. Dans la sourate Al-Fatiha, Allah a mentionné cela clairement. Il est dit que lorsque vous débutez avec mon nom et lorsque vous allez voir mes grâces pleuvoir sur vous, annoncez dans vos actes d'adoration, annoncez dans les cinq prières quotidiennes, annoncez dans chaque rakat de la prière, annoncez dans vos prières et dans vos prières surrogatoires, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Dieu. Dieu qui m'a accordé ses moyens et ses provisions. Le véritable croyant qui est reconnaissant envers Dieu se prosterne tout le temps devant celui-ci lorsqu'il voit plus fort sur lui les grâces de Dieu qui découlent de sa Rahmania et de sa Rahimia. Et c'est ainsi qu'il comprend le sens véritable du terme Hamd. Le Messie premier l'Islam nous a expliqué pourquoi le terme Hamd a été utilisé à la place des termes Thana et Shukar. Il déclare que le Saint-Coran débute avec le terme Hamd et non pas avec les termes Shukar et Madah, car le terme Hamd comprend ces deux sens que l'on trouve dans Thana et Shukar. Il y a d'autres sens dans le terme Hamd, des sens que l'on ne trouve pas dans Shukar et Thana. Quand nous louons Dieu avec le terme Hamd, il n'est pas question d'une simple reconnaissance. Ici, on est en train d'annoncer que Dieu, de par sa grâce, nous a accordé ses moyens. Ensuite, il a fait fructifier nos efforts. Il a béni nos efforts. Il a exaucé nos prières. Et il a fait fructifier ses efforts. Et ces grâces ne se sont pas limitées à l'ampleur de nos efforts. Au contraire, il a comblé les lacunes qu'il y avait dans nos prières et nos actions, et il a fait fructifier ses efforts et nous a présenté le meilleur des résultats. La reconnaissance envers Dieu n'est pas une reconnaissance que nous voyons entre humains. Ici, on est en train de louer Dieu pour qu'il comble nos lacunes, pour qu'il ferme les yeux sur nos manquements. On demande à Dieu de réformer ses actions et de rehausser le niveau de ses actions. On lui demande de faire fructifier ses efforts et le résultat que nous voyons dépasse les résultats qu'auraient pu générer les efforts de l'homme. Si nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu avec ses pensées en tête, Dieu va nous faire comprendre que nous avons fait des efforts pour être reconnaissant envers lui. Il déclare que vous m'avez attribué ces résultats positifs que vous avez reçus. Et puisque vous êtes en train d'agir ainsi, je vais vous accorder davantage. Voilà le sujet des louanges de Dieu. Voilà le sujet de la force de Dieu. Ce sont des choses que nous devons comprendre et que nous devons tout le temps avoir en tête. Ensuite, après avoir exprimé notre reconnaissance envers Dieu, après l'avoir loué, Dieu nous demande d'être reconnaissants envers les uns et les autres. Cette reconnaissance est due aux hommes. Toute personne qui nous a accordé quelque chose mérite nos remerciements. Voilà donc les qualités des Ibadur Rahman. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que l'on ne pourra pas s'acquitter de ses devoirs envers Dieu sans s'acquitter de ses devoirs envers les hommes. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait atteint le niveau le plus élevé dans le domaine de la reconnaissance et de la gratitude. Il a atteint un niveau que ne peut atteindre aucun être humain. Il déclare que celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes n'est pas reconnaissant envers Dieu. Lorsque quelqu'un faisait quelque chose pour le saint prophète Mohammed P, soit lui même quelque chose d'insignifiant, il était reconnaissant envers cette personne. Et c'est en raison de sa reconnaissance qu'il a respecté les sentiments des Ansar de Médine et qu'il a décidé de s'établir à Médine même après la conquête de la Mecque, et qu'il a fait de Médine sa deuxième patrie. Et au cours de sa vie quotidienne, nous voyons d'innombrables exemples de ce genre, des exemples qui nous montrent sa reconnaissance et sa gratitude envers les autres. Cette gratitude était une grande qualité du saint prophète Mohammed P, soit lui, et tout croyant va devoir suivre son modèle. Comme je l'ai dit, par la grâce d'Allah, tout s'est très bien passé au cours de la Jalsa Salana, et pour cela, nous allons devoir en premier lieu exprimer notre reconnaissance envers Dieu, et nous allons devoir être reconnaissants envers toutes ces personnes qui ont tout fait matin et soir pour que cette Jalsa soit un succès. Il y a eu de ces volontaires qui ont travaillé pendant des heures avant même la Jalsa, et ainsi ils ont créé cette ville temporaire à Hadikatul Mahdi. Et jusqu'à présent, il y a des travaux à faire là-bas. On va devoir tout ramasser, on va devoir tout nettoyer à Hadikatul Mahdi. C'est vrai que les chapiteaux ont été placés par des compagnies qui vont elles-mêmes enlever ces chapiteaux, mais il y a quand même beaucoup à faire après. et cela va durer plusieurs jours. En tout cas, toutes ces personnes méritent notre reconnaissance. Les invités aussi doivent être reconnaissants envers les volontaires. Et quant aux invités non ahmadis, quant aux représentants des différents pays qui étaient présents, eh bien, ces personnes m'ont exprimé leur reconnaissance. On s'est très bien occupé d'eux, de leurs accueils, de leur hébergement. Il y avait des personnes de différents départements qui étaient assignées pour les aider. Et tous ces invités ont loué toutes ces personnes qui les ont servis et aidés. Et comme auparavant, leurs services les ont impressionnés. Ceux qui étaient à leur service avaient différentes professions, mais ils étaient là pour les aider pour la moindre chose et ont tout fait pour rendre leur séjour agréable. Un point positif concernant la Jalsa cette année-ci est que je n'ai pas encore reçu de lettres de la part de ces personnes qui ont l'habitude d'émettre des critiques. C'est vrai que l'on ne pourra pas atteindre la perfection dans tout domaine. C'est vrai aussi que l'on doit attirer l'attention des gens concernant des manquements. Je ne suis pas en train de critiquer ou de blâmer ces personnes, car c'est grâce à cela que l'on pourra améliorer la Jalsa. Mais j'ai dit par habitude, car il y a certaines personnes qui ont cette habitude d'émettre des critiques ici et là. Ces personnes font des critiques à tort et à travers, en espérant qu'une des critiques va atteindre sa cible. En tout cas, les gens et les organisateurs profitent de ces critiques. En tout cas, je disais que jusqu'à présent, même ces personnes qui avaient l'habitude d'émettre ces critiques sont en train de louer les organisateurs. Et ils disent que dans chaque département, on a essayé d'améliorer les services. On a même reçu des nouvelles que les gens n'ont pas perdu leur temps ici et là à papoter. On nous a fait savoir que cette année-ci, les participants de la Jalsa étaient très sérieux et il y a eu de l'amélioration dans ce domaine. Et on a vu aussi que les gens se sont consacrés plus à la prière et au souvenir de Dieu. C'est pour cette raison que l'on doit aussi remercier ceux qui ont participé à la Jalsa. Ils ont fait des efforts pour atteindre l'objectif pour lequel ils étaient venus à la Jalsa. Le but de la Jalsa est de se rapprocher de Dieu, comme je l'ai dit. Qu'Allah fasse que ces changements qu'on a vus en ces personnes soient permanents. Ensuite, il y a les Ahmadis qui habitent les quatre coins du monde et qui attendent généralement la Jalsa Salana du Royaume-Uni avec engouement et qui suivent cette Jalsa avec attention. Les Ahmadis attendent surtout la Jalsa Salana du Royaume-Uni et de la Jamaat de l'Allemagne. Maintenant, par la grâce de Dieu, les gens suivent la Jalsa grâce à la MTA. Sinon, s'il n'en était pas ainsi, puisqu'il n'y a pas de Jalsa au Pakistan, les gens auraient ressenti ce manque. En tout cas, grâce à la MTA, les gens ont suivi la MTA dans le monde entier. Et c'est pour cette raison aussi qu'on a reçu d'innombrables lettres et de courriels dans lesquels les gens ont loué et ont fait les éloges des travailleurs de la MTA. Ils ont dit que cette année-ci, ils ont reçu un très grand nombre de lettres et il leur est impossible de répondre à toutes ces personnes. En tout cas, nous remercions toutes ces personnes qui ont fait les éloges des bénévoles de la MTA. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui m'écrivent directement pour présenter leurs vœux et leur reconnaissance. Ces personnes évoquent aussi les bénévoles de la MTA et me demandent de leur transmettre leurs salutations. Par la grâce d'Allah, la majorité des travailleurs de la MTA sont des bénévoles. Année après année, ils travaillent avec la même ardeur. Toutes ces personnes méritent nos remerciements. Je leur remercie en mon nom personnel et au nom de toute la Jamaat. Ici, au Royaume-Uni, il y a des gens qui travaillent pour la MTA. Et dans tous les grands pays du monde, il y a d'autres bénévoles qui travaillent pour la MTA. Je leur remercie eux aussi. À part cela, il y a le site web officiel de la Jamaat, alislam.org. Ce site web a joué un grand rôle cette année-ci pour retransmettre les déroulements de la Jalsa. Il y a des volontaires qui ont travaillé pendant des heures en ce sens. Ils sont aux États-Unis et le responsable de l'islam.org m'a dit que cette année-ci, il y a eu un très grand nombre de visites. C'est pour cette raison que la connexion a été affectée et ils ont reçu beaucoup de doléances, à savoir qu'ils vont devoir améliorer ce service. En tout cas, cela concerne un nombre limité de personnes, mais cette année-ci, il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé ce service. Maintenant, l'équipe de l'islam.org va devoir améliorer le service afin que plus de personnes puissent profiter de ce service. Cette année-ci, on avait des soucis quant à la sécurité et de par sa grâce, Allah a dissipé toutes ces peurs. Ces soucis n'étaient pas imaginaires. Cela n'était pas en raison de ce qui s'était passé au Pakistan. Ces soucis étaient tout à fait légitimes. Il y a eu un incident qui s'est passé et les témoignages prouvent que certaines personnes avaient de mauvaises intentions. Mais tout s'est très bien passé, tout le monde était sain sauf par la grâce d'Allah en raison du fait qu'il y avait tout le temps des agents de sécurité. C'est pour cette raison que je remercie tous ces volontaires préposés à la sécurité et tous ceux qui sont concernés par ce département. Il y a certains volontaires qui ont pris du repos que pour quelques heures uniquement. En tout cas, il y a eu de l'amélioration dans ce département, mais il y a eu quelques incidents qui concernaient les volontaires préposés à la sécurité, et tout cela n'était que malentendu, et quelques personnes se sont trouvées en difficulté. Mais comme je l'ai dit, tout cela n'était que malentendu. C'est pour cette raison que je demande pardon à ces deux familles qui ont été lésées. Mais en tout cas, ces volontaires étaient sous pression et certains d'entre eux n'avaient pas eu le temps pour se reposer. Dans de telles situations, il se peut qu'il y ait de tels incidents. C'est pour cette raison que je demande à ces personnes qui ont été lésées que de pardonner ces volontaires et de ne pas nourrir animosité à leur égard. En tout cas, généralement, ces volontaires ont rendu un très grand service. Ils étaient toujours vigilants. Et ils ont surveillé leurs alentours de très près. Et ils ont accompli leurs responsabilités. Il y avait les khudam qui ont travaillé ici. Parmi eux, il y a ceux qui le font de façon permanente. Ils ne le font pas uniquement pour la Jalsa Salana. Ils l'ont fait au cours des 24 dernières années. C'est pour cette raison que je leur remercie. Je remercie surtout ceux qui le font 24 heures sur 24 à la mosquée Fazal. Ils laissent de côté leur travail et ils sacrifient leur temps. Cela concerne ceux qui habitent dans la région de la mosquée Fazal. Qu'Allah les récompense. Cette année-ci, on a vu aussi le sens de responsabilité de certaines personnes. Une dame responsable m'a dit qu'elle est partie vers le marché avec quelqu'une. Elle n'est pas sortie à l'extérieur. C'est pour cette raison qu'elle ne s'était pas souciée à propos des vérifications. Mais lorsqu'elle est sortie, quelqu'un lui a dit que vous devez ouvrir votre sac. Cette responsable a dit que nous portons des badges, nous sommes venus de l'intérieur et nous ne sommes pas sortis. Mais ce responsable a dit que vous ne pourrez pas partir sans que je vous vérifie. Ces dames ont dit, qui vous ont demandé de nous vérifier ou de nous contrôler? Elles croyaient qu'il avait reçu une directive quelconque. Mais cette personne a cité le calife et a dit que le calife a dit que même si les responsables de la sécurité sortent, ils vont devoir se faire contrôler avant d'entrer. Celui qui contrôlait cette dame et sa compagne a dit donc que c'est pour cette raison que je dois vous vérifier, quel que soit le point de vue de mon officier. Je me souviens de cet incident à Qadian, à l'époque du deuxième calife. À l'époque, les Ahrar, les ennemis de la communauté Ahmadiyya, avaient fait des plans pour nuire à la communauté. Il y avait eu de grands dangers et il y avait des personnes qui étaient responsables de la sécurité à la Bahishti Maqbara. Et on avait donné un code et on a dit que personne ne pourra pénétrer cet endroit sans le code. Une fois, le deuxième calife lui-même est parti faire des vérifications. Le responsable a arrêté. Il a dit que je suis le calife et le responsable a dit que je vous ai reconnu, mais vous avez vous-même dit que personne ne pourra pénétrer sans présenter le code. C'est pour cette raison que je ne vais pas vous laisser entrer. Si l'on peut arrêter le calife en raison d'une directive du calife, il n'y a pas de mal à arrêter un responsable quelconque. Des fois, lorsqu'on organise de nouvelles choses, les estimations ne sont pas exactes. Et cette année-ci, il y a eu des scanners qu'on avait placés au point d'entrée et ces scanners n'étaient pas en grand nombre. C'est pour cette raison qu'il y a eu des retards du côté des dames. Certaines femmes qui étaient de service m'ont dit qu'il y avait beaucoup de femmes et d'enfants qui étaient dans le soleil en raison de la foule. Et ces femmes ont fait preuve de patience et de persévérance et ont attendu leur tour. Elles n'étaient point impatientes ou mécontentes. Ces enfants souffraient, mais ces mères les encourageaient à faire preuve de patience. Une responsable déclare que j'ai vu une mère et son enfant. En voyant leur situation, j'étais sur le point de pleurer, car ces enfants étaient en train de souffrir, et j'étais en train de me dire que ces mères et ces enfants sont venus assister à la Jalsa. Elles sont venues pour la cause de Dieu. C'est pour cette raison qu'elles font preuve de patience. En tout cas, en les voyant, certaines responsables pleuraient car elles ne pouvaient rien faire. Elles devaient accomplir leur devoir. Mais après cela, la situation s'est améliorée. Ces personnes n'ont souffert que le vendredi. Les responsables demandaient pardon à ces mères de petits-enfants qui étaient présentes et elles ont été reconnaissantes envers elles. Cela a montré la patience et la persévérance de ces dames Ahmadis. Si ces dames étaient impatientes moindrement, toute la situation aurait été sens dessus-dessous. Et le succès dans ces points d'entrée est en raison de la coopération des participants et des participantes. Et ainsi donc, l'on doit louer Dieu pour cela. C'est Dieu qui a placé cela dans les cœurs des gens, à savoir qu'elles vont ou qu'ils vont devoir accomplir cela pour la cause de Dieu. Les invités non-Ahmadis ont vu cela. Ils ont vu que tout s'est passé dans le calme. Et c'était extraordinaire de voir tout cela. Et dans les autres départements, nous avons vu la grâce de Dieu. Il y a le département du transport. L'année dernière, il y a eu de l'amélioration. Et cette année-ci, tout s'est bien passé. Il y a aussi le département qui concerne la cuisine. Il y a aussi d'autres départements. Et toutes ces personnes qui travaillent dans ces départements méritent nos prières et notre reconnaissance. La police elle-même a dit la même chose, à savoir que tout s'est très bien passé, tout s'est passé dans le calme, et c'est là un exemple pour nous. Il y a aussi le département de la sécurité et de la santé au niveau de l'État qui nous a donné certaines règles à respecter l'année dernière. Cette année-ci, on a pu pallier ces manquements. Et les responsables ont dit que tout était exemplaire chez vous et nous allons vous citer en exemple dans nos rapports annuels. C'est là la grâce de Dieu. Tout cela ne dépend pas de nos efforts. Ainsi donc, toutes ces personnes sont en train de se tourner dans notre direction. Nous devons tout le temps nous tourner vers Dieu et nous allons le louer. Lui qui, de par sa grâce, ferme les yeux sur nos manquements, lui qui crée de nouvelles situations pour nous, lui qui fait disparaître les plans de nos ennemis. Nous sommes reconnaissants envers Dieu. Il nous a accordé sa protection, il nous a accordé son soutien et il a fait en sorte que tout le monde ait pu s'acquitter de ses responsabilités. Et les autres ont vu cela à la MTA et ont vu voir pleuvoir sur la communauté ses faveurs. On voit cela à travers leurs lettres. Qu'Allah nous accorde davantage de faveurs et que nous puissions aussi être à la hauteur des attentes du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam qui déclare que tout progrès que nous allons voir au sein de notre communauté, ces progrès vont dépasser les progrès des autres. Et grâce à ces progrès, nous allons aller de l'avant et ainsi nous allons louer Dieu davantage. nous allons louer Dieu afin que nous puissions recevoir davantage de faveurs de la part de Dieu. Je vais devoir annoncer un décès aujourd'hui. Cela concerne Mokaram Mustafa Thabit Saheb, qui est notre frère Ahmadi de l'Égypte. Il est décédé hier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inch'Allah, je vais diriger sa prière funéraire lundi. Mais j'ai certains faits à présenter à son sujet. Il est né en l'an 1936, en février 1936, et ainsi il a environ 74 ans. Il était moursi par la grâce d'Allah. Depuis 1971, il était au Canada et il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1955. Il y a beaucoup de détails à ce sujet et vous pourrez lire ça dans les rapports présentés par M. Tahir Nadim Saheb. Il a laissé un fils et une fille. Sa première épouse est décédée et il s'était marié une deuxième fois. Il avait travaillé dans une compagnie pétrolière. Il était secrétaire établi au Canada. Et il était aussi le président d'un comité. Il servait la communauté avec ardeur et engouement. Il avait préparé des cassettes et des vidéos pour les arabophones. Il avait préparé beaucoup de matériel pour la MTA. Il était toujours prêt à servir la communauté financièrement. Des fois, il avait confié à la Jamaat de très grosses sommes. Une fois, le quatrième calife avait dit que, selon ses estimations, M. Mustafa Thabit avait l'habitude de confier à la communauté plus de 70% de son salaire. Il avait aussi fait de grandes dépenses pour établir une imprimerie ici et il avait aussi fait des dépenses concernant le Darut Tabligh en Égypte. Il avait lui-même écrit plusieurs ouvrages en arabe, Ajwiba Anil Iman, Al-Islam Ad-Din Al-Hayy, Al-Mu'tiz Al-Falkiyya, Asiratul Mutahara, Dala'il Sidqil Anbiya sont certains de ses ouvrages et il avait traduit aussi la biographie du premier calife écrit par Chaudhry Muhammad Zafra Khan. Il avait traduit aussi l'ouvrage Revelation, Rationality, Knowledge and Truth. Il avait traduit aussi le premier volume du commentaire du Saint-Coran en 5 volumes. Il m'avait présenté cela en 2003. Il était déjà malade. Il a dit qu'il va essayer de compléter cette tâche et par la grâce d'Allah, il a pu faire imprimer le premier volume de ce commentaire en 2005 ou en 2004. Il a traduit aussi l'introduction à l'étude du Saint-Coran. Certaines personnes l'ont aidé pour cela. Il était un très bon orateur. Il avait fait plusieurs discours au cours des Jalsa. Il participait dans tout plan de la communauté. Je l'ai vu pour la première fois en 1984. Il était au Ghana à l'époque. Le quatrième calife l'avait envoyé là-bas. Certains non-Ahmadis pensaient que les Arabes n'avaient pas embrassé l'Ahmadiyya et le quatrième calife l'avait envoyé au Ghana et pour se présenter parmi les musulmans et pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. et il a eu l'occasion de prêcher ce message par la grâce d'Allah. Lorsque le quatrième calife est venu ici en 1984, il est venu lui aussi ici. Il a travaillé dans le département des publications et il est passé par des épreuves. Il a tout le temps fait preuve de patience et de persévérance. Et Allah l'a récompensé amplement. Il était tombé gravement malade depuis les 7-8 mois et il m'a dit qu'il veut vivre ici, tout près du calife. Je lui ai dit de venir ici. Et le jour où il est venu, il était gravement malade. Moi-même, je voulais partir le rencontrer, mais il a su que j'allais venir le rencontrer et il est sorti de chez lui, de sa chambre. Et il est venu à mon bureau et je lui ai dit que je voulais venir vous rencontrer. Il a dit que je suis venu moi-même et c'est pour cette raison que je voulais venir vous rencontrer directement. Quelques jours de cela, il est tombé gravement malade. Il était à l'hôpital pendant quelques jours. La maladie s'est aggravée et cette maladie lui a coûté la vie. Il était un pilier dans l'émission Al-Hiwal al-Mubashir. Il s'est acquitté de son devoir en tant que serviteur du Messie premier, l'Islam, celui qui a brisé la croix. Il avait une grande connaissance de la Bible. C'est pour cette raison que même les grands prêtres le respectaient. Il était atteint de cancer et il a fait preuve d'une grande patience et jusqu'à son dernier souffle, tant qu'il le pouvait, il a servi la communauté et il n'a pas abandonné ses compagnons et il ne leur a pas fait savoir à quel point il était gravement malade. Qu'Allah exalte son statut et comme j'ai dit, lundi, Inch'Allah, je vais diriger sa prière funéraire. Ses enfants vont venir pour cela.